de Philippe vivant 21 janvier 83, Raymond, père Philippe.
Alors, je réponds d'abord à cette question, puis après nous allons continuer cette recherche de la philosophie du vivant. Parce qu'on change de vitesse, hein. Et l'éthique et la philosophie du vivant, ça se tient très très fort. Hein. Il faut bien voir que toujours, c'est un peu le fondement, la philosophie du vivant par rapport à l'éthique. Ce n'est pas le fondement propre, parce que le fondement propre, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'intention, c'est l'acte libre par où on a dit qu'ici, c'est les soubassements. Vous nous avez dit la dernière fois que, je cite, l'âme spirituelle ne peut pas être le fruit de la génération vitale. Oui. Est-ce lié à l'immortalité de l'âme spirituelle? Comment expliquer cela? C'est lié à la nature même de l'âme spirituelle. C'est la différence entre la génération animale et la génération humaine. La génération animale, oui, c'est que l'animal va communiquer. Le chien ou la chienne communique à son petit, son âme, sans le savoir. Ça se fait selon la nature et les exigences de la nature. Et donc, c'est parce que l'âme de l'animal est corruptible et qu'elle est liée au corps. Tandis qu'au contraire, quand il s'agit de l'âme humaine, il s'agit d'une âme spirituelle. Cette âme spirituelle n'est pas liée au corps. Elle est liée au corps en ce sens qu'elle n'existe que dans un corps, mais elle a en elle quelque chose de plus. Vous allez me dire, à quel moment pouvez-vous dire ça, au point de vue philosophie du vivant? C'est vrai, ça pose un très gros problème. Moi, je l'ai affirmé. C'est une affirmation. Alors, cette affirmation est-elle un jugement de sagesse? Est-elle un jugement propre de la philosophie du vivant? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Alors, la philosophie du vivant, normalement, vient après l'éthique. Les deux sont un peu contemporaines, mais si je prends un ordre génétique, je vous ai donné le petit plan de l'itinéraire dans l'être un ami. Normalement, la philosophie du vivant vient après l'éthique. L'éthique se fait toujours, n'est-ce pas, puisqu'il y a des niveaux différents, nous verrons, mais l'expérience que j'ai de l'amour d'amitié me pose un très gros problème. Parce que dès qu'on a l'expérience d'un amour personnel, on sait bien que cet amour personnel n'est pas dans le temps. Dès que j'aime spirituellement, je suis au-delà du temps. Donc si je suis au-delà du temps, suis-je dans l'éternité? Non, je ne suis pas dans l'éternité. L'expérience de l'amour spirituel me met au-delà du temps, mais je ne sais pas exactement où je suis. J'aime. C'est suffisant. Mais c'est vrai que je touche l'ami, je touche une personne humaine, un bien, qui est au-delà du temps et de la corruptibilité. Donc ça me fait déjà poser tout de suite le problème de savoir si dans l'homme il y a quelque chose qui est au-delà du temps, qui est incorruptible, qui est donc immortel. Je me pose très vite le problème de l'immortalité. C'est normal puisque je fais de la philosophie à l'intérieur des traditions religieuses et les traditions religieuses ont toujours véhiculé le problème de l'immortalité de l'âme. Pas une tradition religieuse est en dehors de ce problème de l'immortalité de l'âme. Je le traduis différemment, je peux le traduire par la transmigration. La transmigration, c'est encore un problème de l'immortalité de l'âme. C'est une autre manière de le voir, mais c'est au fond toujours la personne humaine qui est au-delà de la corruptibilité. Il y a la tête qui émerge. On voit, la corruptibilité est faite, mais il y a la tête qui émerge. Donc, le problème de l'immortalité se pose très vite. Quand j'essaie de comprendre le point de vue de la responsabilité, je touche nécessairement quelque chose qui est au-delà de la corruptibilité. Si j'étais un être purement corruptible, je ne serais pas responsable. Oui, je retrouve toujours ce problème. Alors, ça serait intéressant de voir à quel moment je le situe exactement, vous voyez. Mais je pose le problème, je ne le résous pas, mais je pose le problème de l'immortalité en éthique et l'éthique de l'amour d'amitié. Parce que l'amour d'amitié me met au-delà du temps et au-delà de la corruptibilité. En philosophie du vivant, où je suis maintenant, je ne pose pas tout de suite le problème de l'immortalité, je ne peux pas le savoir. En réalité, je ne saurai que dans un jugement de sagesse. De sorte que ce fait de dire l'âme spirituelle ne peut pas être le fruit de la génération vitale, c'est un jugement de sagesse. C'est un jugement de sagesse. Au niveau purement de la philosophie du vivant, je dois poser le point d'interrogation. L'âme spirituelle, l'âme humaine, peut-elle être le fruit d'une génération vitale, de la procréation? Je pose le problème. Ça n'a pas d'importance, hein, au niveau de la procréation. Au niveau de la procréation, vu du côté de la philosophie du vivant. Ça a beaucoup d'importance au point de vue éthique, ça a beaucoup d'importance après, mais dans un jugement de sagesse. Je ne sais pas si vous voyez suffisamment. Parce que c'est important de comprendre la différence entre le jugement de sagesse et le jugement propre. Le jugement de sagesse présuppose la découverte de l'être premier, présuppose le problème de la création. Alors, dans la lumière de la création, je peux dire que l'âme spirituelle humaine ne peut être communiquée à l'homme que par Dieu. Dans un jugement uniquement de philosophie du vivant, au niveau de la philosophie du vivant, je peux simplement dire que il me semble que je peux affirmer de façon positive. Oui, oui. Oui, ça, on pourrait dire de façon négative, il semble que, vous voyez, parce qu'il faut pour cela, au fond, le problème de la spiritualité de l'âme humaine, est touché dès que je touche le problème de l'amitié, dès que je touche le problème de l'amour spirituel, on touche tout de suite ça. Or, il est évident que cette spiritualité de l'âme fait que l'âme n'est plus de notre univers. Or, la procréation est de notre univers, donc, vous voyez, négativement. Mais l'intervention de Dieu ne peut se donner que par dans un jugement de sagesse. Mais négativement, on peut très bien le dire. C'est pour ça que ça pose le problème, du reste. Vous voyez, le problème est posé négativement. Pas d'autres questions là-dessus? Oui. Génétiquement. Hein. Oui, mais ça, c'est au point de vue de la connaissance. Je dis pas au point de vue de l'existence. Vous parlez du côté de l'existence. Au côté de l'existence, c'est évident. Mais c'est du côté de la connaissance. Je commence ma philosophie normalement par le facere et l'éthique. Je commence ma philosophie par une philosophie pratique. Oui. Là, c'est une chute. Heureusement qu'il y a encore un plafond qui tient. Je commence la philosophie par le point de vue pratique, puis je viens à la connaissance spéculative, et la connaissance spéculative me fait atteindre la philosophie du vivant. Oui, la philosophie du vivant est du côté de la philosophie spéculative. Normalement, la philosophie spéculative vient après. Mais génétiquement, selon l'ordre nature, c'est l'inverse. La philosophie spéculative est plus parfaite. Donc, elle rejoint ce que vous dites. C'est qu'il est évident que si l'être humain n'était pas un vivant, il ne serait pas capable d'aimer. Donc, en aimant, il montre qu'il est vivant. Ça, c'est sûr. Et le jour où il mourra, il n'aura plus cette expérience de l'amour d'amitié. Mais il aura l'expérience des pleurs de l'ami. Mais, autre temps. Mais là, il ne va pas, il n'a pas l'expérience. Donc c'est évident que pour pouvoir avoir l'expérience de l'amour d'amitié, il faut être un vivant. Et donc le point de vue du vivant dans l'ordre de nature est plus fondamental que l'éthique. Mais c'est les deux rapports différents. Il faut bien voir ces rapports différents selon l'ordre génétique de la découverte de la philosophie et selon l'ordre de nature de la perfection de la philosophie. Selon l'ordre de nature de perfection de la philosophie du vivant a une noblesse que n'a pas l'éthique, puisque c'est une connaissance spéculative. Donc une noblesse. Regardez le début du De Anima d'Aristote, où Aristote dit ça magnifiquement, où il montre que la connaissance de la philosophie du vivant, la connaissance de l'âme, a une noblesse unique, et une noblesse plus grande que tout le reste. Vous voyez ? Alors, est-ce lié à l'immortalité de l'âme spirituelle ? Comment expliquer cela ? C'est évident que ce n'est que lorsque j'ai découvert pleinement dans un jugement de sagesse que l'âme était immortelle, que je peux dire que l'âme étant immortelle ne peut être créée que par l'être premier, Dieu. Et alors à ce moment-là, j'ai une nouvelle vision. J'ai une nouvelle vision de la procréation. Comme j'ai une nouvelle vision d'éthique. C'est sûr. C'est pour ça que c'est si difficile de voir tout ça en même temps. Parce qu'il y a des paliers différents qu'il faut respecter. Et c'est très important de respecter ces paliers différents. Vous voyez que la scolastique liant philosophie et théologie, passant de l'un à l'autre, ne fait pas. Et c'est ça qui est si gênant. Parce que vous ne savez pas si vous êtes dans un ordre de théologie ou dans un ordre de recherche philosophique. La théologie, elle, permet évidemment d'assumer tout ça. Et elle assume tout ça. Tandis que l'ordre génétique philosophie doit respecter ces niveaux différents. Oui. Bon. Alors, continuons. Ce qui fait comprendre que certains traités au point de vue philosophique doivent être vus dans deux lumières différentes. La procréation que nous voyons maintenant, comme ce qui donne le point de vue dernier de la vie végétative. La vie végétative touche son sommet dans la procréation. Ça, c'est le sommet. Seul le vivant parfait engendre. Le vivant imparfait n'engendre pas. Seul le vivant parfait engendre. Donc, on peut dire que la procréation, c'est le point de vue dernier, perfection du vivant, le point de vue dernier de la vie végétative. C'est donc ce qui finalise la vie végétative. Toute la vie végétative prend toute sa signification dans la procréation. Ça, c'est très très important de comprendre. Parce que la vie végétative, nous allons le voir, est de fait la seule vie substantielle qui est en moi. La vie sensible n'est pas substantielle. Alors, il faut la vie intellectuelle et contemplative pour redécouvrir une vie substantielle. Autrement dit, si vous voulez, si nous sommes là, la vie végétative, tout de suite, on voit qu'elle est substantielle. La nutrition, l'augmentation, la croissance, et la procréation. Trois opérations qui ont quelque chose de substantiel. Très différentes les uns des autres. Hein. Et ce sont les trois opérations qui donnent la structure de la vie végétative. Toute la structure de la vie végétative est donnée dans ces trois opérations. Et je vois que cette vie végétative ne peut pas se comprendre en dehors de l'aspect substantiel. Ce que ne voit pas l'aspect biologique, hein, forcément. La biologie ne peut pas regarder simplement les lois, mais elle ne regarde pas les lois de la croissance, les lois de la nutrition, les lois de la procréation. Mais elle n'atteint pas le point de vue substantiel. Seul le point de vue de la philosophie du vivant peut parler de cet aspect substantiel. La vie sensible, nous allons voir tout de suite, la vie sensible, elle est anarchique. Par définition, elle n'a pas de fin. Elle est sans fin. Elle n'a aucun caractère substantiel. Tandis que la vie spirituelle, je dis spirituelle pour dire la vie de l'esprit, elle a une fin. Une fin qui transcende le vivant. Une fin qui transcende le vivant. Et une fin qui donc fait qu'il y a quelque chose de substantiel. La vie spirituelle, la vie de l'esprit, se termine dans la contemplation, qui est substantielle. Oui, donc vous avez le vivant humain est pris dans deux opérations substantielles. La contemplation, d'une part, qui est rare, il faut bien le reconnaître, et puis la vie végétative, qui est moins rare. Alors, la vie végétative et la procréation donnent la stabilité. Alors, c'est ça qu'on va voir. Et ça, je crois que c'est très important à saisir. Donc, il faut faire ce petit tableau pour comprendre. Quand je parle de la vie végétative, et je dis que la procréation finalise le vivant. Vous comprenez que cette finalité est immanente. Puisque le fruit de la procréation, c'est un autre vivant, de même espèce. Et donc c'est une fin immanente. C'est l'espèce qui finalise le vivant individuel. Mais c'est une finalité qui n'est pas extrinsèque et transcendante, c'est une finalité immanente. Et donc, puisque c'est une finalité immanente, ça ne permet pas au vivant de croître, ou de s'ouvrir, ou de se dépasser. Le vivant ne se dépasse pas par la procréation. Il perdure. N'est-ce pas ? Il dure un peu plus longtemps grâce à la procréation. Mais il ne se développe pas. On ne saura pas du tout si le petit-fils qu'on a, si le fils qu'on a sera plus parfait que nous. Quelquefois, il sera beaucoup plus bête. Quelquefois, il sera génial. C'est difficile de le savoir d'avance. Même si la mère désire avoir un génie, c'est pas à cause de son rêve ou de son désir qu'elle aura un génie. Elle pourra avoir quelqu'un qui sera moins. Donc, et qui, au niveau de l'espèce, sera toujours le porteur de l'espèce. Et donc, au niveau de l'immanence, il y a quelque chose de vrai. La procréation finalise, d'une manière immanente, le vivant de vie végétative. Alors, puisque ça le finalise, c'est ça qui donne le sens à la vie végétative. La vie végétative prend toute sa signification par la procréation. C'est ça qui, par le fait même, fait comprendre la structure profonde de la vie végétative. Puisque ça lui donne son sens, sa signification. C'est pour ça que le vivant de vie végétative, qui se met en dehors de la procréation, pour tel ou tel motif, hein, je regarde de l'extérieur ici, je n'ai pas encore à parler de motifs religieux de contemplation. Je pourrais en parler, ça. On le verra à propos de la contemplation. Si pour une raison majeure, c'est-à-dire une finalité contemplative, parce que c'est la seule finalité qui permet, c'est ça qu'il faut bien comprendre. La seule finalité qui permet, il faut une finalité substantielle pour me permettre de dépasser une finalité substantielle. Si je n'ai pas une finalité substantielle, je ne peux pas dépasser une finalité substantielle. Parce que la finalité substantielle stabilise. Il y a deux opérations qui stabilisent l'être humain. la végétation, la procréation et la contemplation. Ça, je peux le dire immédiatement au point de vue philosophique, puisque je suis en présence des deux opérations substantielles, et que seule la substance stabilise. La nutrition ne stabilise pas. La croissance ne stabilise pas. Donc, la procréation seule stabilise parce qu'elle donne une fin immanente à la vie végétative. Donc, elle stabilise. Elle stabilise par le bas. Attention, quand je dis elle stabilise par le bas, elle stabilise spécifiquement. C'est très intéressant de voir ça. Elle stabilise spécifiquement. Elle stabilise du côté de l'espèce. Elle ne stabilise pas individuellement. C'est pour ça que c'est faux de dire « Vous trouverez votre stabilité par la procréation. » Non. Puisque c'est une finalité au niveau de l'espèce. Ce n'est pas d'individu. Mais il peut y avoir un rebondissement sur l'individu. Ah ça oui. Mais pas absolument sûr. Ça peut très bien être, de fait, l'occasion d'une stabilité d'individu. La procréation. La maternité peut très bien être une occasion passagère de la stabilité de l'individu. Parce que ça stabilise, puisque ça finalise l'espèce. Mais ça ne finalise pas l'individu. Donc ça ne stabilise pas. L'individu comme tel est laissé de côté. C'est pas parce qu'il a engendré qu'il ne mourra pas. Au contraire, ça peut être l'occasion quelquefois d'une mort plus immanente. C'est vrai, c'est très vrai, c'est un fait. Ça peut être l'occasion d'une mort plus immanente. Et c'est, j'allais presque dire, c'est normal, puisque de fait, la finalité n'est pas du côté de l'individu, elle est que du côté de l'espèce. La procréation finalise l'espèce, permet que l'espèce perdure, mais pas l'individu. Donc l'individu est toujours voué à la mort. S'il est toujours voué à la mort, l'angoisse peut l'étreindre. Et ce n'est pas la procréation qui va supprimer ça. Mais toutes les confusions qu'on peut faire dans ce domaine-là, parce qu'on ne voit pas suffisamment exactement ce que représente le point de vue de la procréation qui finalise l'espèce et non pas l'individu. Mais c'est vrai que ça stabilise l'espèce. Ça donne une stabilité comme toute opération substantielle. Toute opération substantielle stabilise, mais momentanément. Le fait de manger, la nutrition, ça stabilise. Vous êtes obligé de vous asseoir, normalement. Ça stabilise, hein. C'est un repos et une détente. Alors ça stabilise, mais momentanément. C'est pas du tout, c'est momentanément. Alors, c'est un certain moment d'arrêt. Ça stabilise l'individu. La croissance aussi stabilise, ça donne l'euphorie. L'euphorie, momentanée. Un être qui croit, c'est merveilleux. Donc, il y a une espèce de beauté, de splendeur. La croissance donne cette espèce de stabilité, d'euphorie, mais momentanée. C'est curieux, parce que ça n'enlève pas la corruptibilité de l'individu. Et c'est la corruptibilité de l'individu qui est source de l'angoisse. Si l'individu n'était pas corruptible, il n'y aurait pas d'angoisse. Or, la nutrition lutte momentanément contre l'angoisse. C'est vrai, quand quelqu'un est très angoissé, qu'il mange un bon beefsteak, qu'il boit un bon verre de vin, ça lui donnera une euphorie momentanée. C'est évident, parce que s'il en boit trop, le lendemain sera triste, n'est-ce pas? Et l'angoisse sera plus grande. Mais au fond, ça lui donnera une euphorie momentanée. Il ne faut pas l'oublier, ça. C'est pour ça qu'il y a des fêtes, des dîners de fêtes, vous voyez, pour programmer les moments euphoriques de la vie végétative. Alors, c'est pour ça qu'il y a des dimanches qui doivent être des dîners de fête. C'est pour ça que ces jours-là, il ne faut pas de grandes promenades pour qu'il y ait des dîners de fête. N'est-ce pas? Parce que là, pour qu'il y ait de fait un petit moment euphorique. C'est nécessaire, ça. C'est nécessaire au point de vue. On doit assumer notre vie végétative. On ne doit pas la nier. Vouloir la nier, c'est mauvais, c'est faux. On peut le faire quand on est jeune, jusqu'à un certain âge, après c'est impossible. Il y a des revanches de l'âme. Vous savez, c'est les ruées de l'âme. Hein. Ah, tu m'as eu pendant 10 ans et puis je t'aurai maintenant pendant 20 ans. Alors ça, c'est l'âme qui rue. Et c'est vrai, ça. De sorte qu'il ne faut pas nier la vie végétative. On doit la reconnaître, mais on doit l'assumer. On ne doit pas être esclave. Être esclave de la vie végétative, c'est effrayant. On doit pouvoir l'assumer. Et chacun doit l'assumer comme il peut. Parce que c'est évident que c'est plus facile d'assumer une vie végétative qui est euphorique, c'est-à-dire qui est de bonne santé. Ça s'assume beaucoup plus facilement qu'une vie végétative qui est maladive. Une vie végétative qui a été, à cause de la jeunesse, à cause de l'atavisme, que vous avez eu un grand-père qui a fait des festins toute sa vie, n'est-ce pas, et qui alors vous lègue un mal de foie effrayant. C'est, ça peut arriver, ça. C'est un lègue, un héritage qu'on partage douloureusement, n'est-ce pas. Et il y a toujours un qui a une part plus grande que l'autre. Alors à ce moment-là, c'est plus difficile à porter, n'est-ce pas. Et on le sait, on s'en aperçoit progressivement. C'est un héritage dur à porter. On doit l'accepter, on doit le connaître, on doit tout faire ce qu'on peut pour qu'on assume plus facilement la vie végétative. Vous voyez, c'est là où l'aspect sportif est nécessaire pour assumer davantage la vie végétative. Parce qu'on doit l'assumer. On ne doit pas la mépriser et la nier. On doit savoir qu'il y a un rythme au niveau de la vie végétative de l'individu. On doit savoir qu'il y a un rythme au niveau de l'espèce, qui est au niveau de procréation. Et c'est important à comprendre qu'il y a un rythme particulier, qui n'est pas le même, le rythme de l'individu et le rythme de l'espèce. Et l'individu porte le rythme de l'espèce. C'est sûr, il doit porter ça, il doit comprendre. Alors, on va voir ça après, quand on verra le lien entre la vie sensible et la vie végétative. Parce que vous comprenez qu'on doit cohabiter. Hein. Il y a 3 étages. Il y a, si vous voulez, un sous-sol dans lequel il y a pas mal de choses. N'est-ce pas, c'est le sous-sol. L'accueil, c'est la vie sensible. C'est l'accueil, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, c'est anarchique par définition, tu vois. Donc ça c'est l'accueil. Tandis, et la vie spirituelle, c'est le sommet, c'est la flèche. Tu vois, ça part en mais quelque chose de merveilleux. Alors, évidemment, la vie spirituelle doit passer par la vie sensible pour assumer le sous-sol. Le sous-sol est très déterminé. Très déterminé. Autant l'accueil est indéterminé, autant le sous-sol est très déterminé. Il est très déterminé, il a une double détermination. Une détermination de l'individu et une détermination de l'espèce. Alors ça serait très intéressant par rapport à toute la biologie, parce que la science biologique ne peut pas faire ce discernement. Ne peut pas. Elle constate uniquement les lois de la vie végétative. Elle constate que ces lois dépendent des individus, c'est évident. Le boa digère autrement que l'âme et que l'homme. Et que l'homme, de temps en temps, a un estomac comme le boa, alors que d'autres, il a un estomac comme l'araignée. L'araignée, c'est l'animal le plus irascible qui soit au monde. C'est l'animal que vous avez. Et c'est l'animal, paraît-il, parce qu'il y avait au Saulchoir, où j'ai fait mes études et où j'ai enseigné, au Saulchoir, il y avait un père dominicain qui était spécialiste de la sexualité des araignées. Et quand on entrait dans sa cellule, on voyait 90 bouquins sur la sexualité des araignées. Alors je me disais toujours, vous voyez, c'est une chose extraordinaire. Authentique, mais je n'exagère pas. C'est tout à fait authentique. Je suis très ferré là-dessus, parce que toutes les récréations venaient sur la sexualité des araignées. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas si ça éclairait beaucoup, mais si on dit que c'est quelque chose de très extraordinaire. Alors, je me disais, vous voyez, comme le Saulchoir était près de la Seine, tout d'un coup, un tremblement de terre apocalyptique, le Saulchoir est enfoui, par un effet tout à fait du hasard, la seule cellule de ce moine, de ce religieux, tombe dans le sable, c'est assez sableux, et reste là. 2000 ans après, en l'an 4000, on découvre, dans des recherches extraordinaires, cette cellule, ces livres sont... Et on découvre, comme pour Qumran, vous voyez, c'est pour ça. Alors on découvre la cellule où on trouve 80 bouquins de sexualité de l'araignée. On dit, tout ce couvent était consacré à la sexualité de l'araignée. Donc il devait adorer l'araignée. Et à partir de ce moment-là, on commence une thèse extraordinaire sur l'adoration de l'araignée au demi de le long de la Seine. On ne sait pas trop pourquoi c'est situé là. C'est extraordinaire. C'est comme ça. Ça se crée. Bon, alors, on va essayer de comprendre. Parce que ça... C'est très intéressant, ça, vous voyez. Parce que ça fait comprendre certains problèmes. Il vaut mieux les prendre de ce côté-là. Parce que ça, ça n'enfonce personne. Bon, alors, c'est très vrai que au point de vue purement biologique. C'est très intéressant, ça, vous voyez, parce que ça fait comprendre certains problèmes. Il vaut mieux les prendre de ce côté-là. Parce que ça n'enfonce personne. Bon, alors, c'est très vrai que, au point de vue purement biologique, on ne peut pas faire le discernement du point de vue de l'individu et le point de vue de l'espèce. Ça, c'est absolument impossible. Simplement, on pourra dire, oui, on distingue des rythmes différents des différentes espèces. Et puis alors, le point de vue espèce reviendra pour le problème de l'évolution. Parce que vous comprenez que c'est au fond, au niveau de la vie végétative, que va se poser le problème de l'évolution. Puisque c'est au niveau de la procréation. C'est pas au niveau sensible, c'est pas au niveau spirituel. Donc c'est au niveau de la vie végétative. Et ça, je crois que c'est très juste qu'il faut dire que c'est au niveau de la vie végétative que se pose le problème de l'évolution. Ce que Rostand avait réclamé avec force devant le père Teilhard, en disant, il oublie que le problème de l'évolution, c'est au niveau de la vie végétative, c'est-à-dire au niveau de la vie biologique. C'est au niveau de la vie biologique que le problème de l'évolution se situe. Et c'est intéressant d'essayer de comprendre. Dans cette lumière... En comprenant bien que l'évolution n'a pas été traitée au niveau philosophique, qu'elle est née au niveau de la biologie. Ça pose des problèmes, ça. On y reviendra. Il faudra quand même une fois essayer de regarder ça attentivement. Alors, je vous renverrai au livre de Otis, Dogme, Théorie, non c'était Théorie, Théorie de l'évolution, au niveau biologique, philosophique, théologique. C'est intéressant, ça a été fait avec beaucoup d'amour, avec une préface de quelqu'un que j'aimais beaucoup, hein, qui était de Coninck, Thomas de Coninck, non pas Thomas, c'était de Coninck, qui lui faisait ça avec, il a fait une préface, c'était une thèse qu'il avait faite avec lui. Et c'est intéressant parce que ça étudie le problème dans toute sa largeur. Je crois que c'est faux, mais je crois que c'est très intéressant. C'est toujours, vous voyez, quand on va le plus loin possible, quelquefois on voit les erreurs. Alors quand on parle de théorie philosophique, théologique de l'évolution, ça commence à grincer, n'est-ce pas ? Théorie biologique, bon, très bien, on pourrait peut-être essayer de voir exactement. Alors, ça m'a beaucoup intéressé, parce que j'ai dû en faire la recension à ce moment-là, et c'est intéressant quand on veut faire. Je voulais l'étudier. C'est à l'occasion d'un livre comme ça, vous voyez, qu'on doit entrer dans un problème et faire soi-même un tout petit peu toute l'enquête pour essayer de comprendre. Ça vous oblige d'aller jusqu'au bout. Et c'est pas commode. Et je me souviens d'avoir interrogé à ce moment-là, ça fait déjà 25 ans, j'avais interrogé le professeur d'histologie de Fribourg, c'était un Français de Nancy. Et je lui ai apporté toute une série de questions et je lui ai posé ces questions. Alors il m'a dit, ah, l'évolution, c'est un problème philosophique. Alors, il dit, moi je croyais que c'était un problème de biologie. C'est un problème. Alors, il m'a regardé à ce moment-là en souriant et dit, je suis histologue, donc je suis dans l'analyse. Si je suis dans l'analyse, moi, je ne peux rien dire sur l'évolution. Je suis dans l'analyse. Alors, il dit, pourquoi? Parce que c'est quoi pour vous l'évolution? Ah, pour moi, l'évolution, c'est une perspective philosophique qui permet les grandes synthèses. C'était pas si bête, hein? Perspective philosophique qui permet des grandes synthèses, qui permet d'unir des quantités de choses successives, diverses, mais c'est philosophique. Alors, moi, quand j'interroge les philosophes sur l'évolution, ils disent toujours il y a une base scientifique. Ah, si vous voulez, alors on va se renvoyer la balle comme ça, et l'évolution sera entre les deux. Et ça m'a beaucoup intéressé comme perspective. L'évolution est entre les deux. Donc, il y a des aspects dispositifs du côté biologique, il y a des aspects dispositifs du côté philosophique, et quand la rencontre des deux fait une théorie. Est-ce que je crois? Je croirais assez volontiers ça. Ça, on pourra en reparler, c'est une nota bene. Mais vous voyez, je regarde ici parce que je crois que c'est important de voir que le problème de l'individu et de l'espèce se trouve nécessairement au niveau de la vie végétative. La biologie rencontre ce problème dès qu'elle parle de l'évolution. On ne parle pas de l'évolution de l'individu, on parle de l'évolution de l'espèce comme telle. L'individu, il est fixé. Il a son chiffre. On parle de l'évolution de l'espèce qui se fait par les individus. Donc, même le biologiste doit reconnaître qu'il y a les deux choses. Un rythme qui est propre à l'espèce et un rythme qui est propre à l'individu. Le philosophe, lui, le dit tout de suite. Il dit tout de suite que lorsqu'il s'agit de la vie végétative, il doit reconnaître qu'il s'agit d'un individu de vie végétative. Et si je prends l'homme, puisque c'est l'homme qui nous intéresse en premier lieu, plus que l'araignée, n'est-ce pas ? Donc, on regarde l'homme, et on voit que l'homme, comme individu, est responsable de l'espèce. Responsable d'une responsabilité inconsciente, mais quand même responsable de l'espèce. Je fais partie de l'espèce humaine. Et en tant que je mange, en tant que je grandis, ou le problème de la procréation, c'est le problème de l'individu responsable de l'espèce. Il peut prendre conscience de ça. Et il doit comprendre par le fait même qu'il y a deux aspects tout à fait différents, il y a deux aspects très importants. C'est que l'individu porteur de l'espèce, donc il a son rythme particulier parce qu'il est l'individu de telle espèce. Mais il est aussi l'individu de telle espèce. Et parce qu'il est l'individu de telle espèce, il y aura le rythme de l'individu et le rythme de l'espèce. Il y aura des choses qui relèveront de l'espèce et dans lesquelles, de fait, il sera complètement déterminé. Il y a l'espèce humaine. Il y a l'espèce de l'homme. Et puis, il y aura le point de vue de l'individu. Jusqu'où peut-on modifier l'estomac d'un individu? On ne peut pas le supprimer. Oui, on peut le supprimer. Momentanément. Mais on ne peut pas le supprimer. Mais ça, c'est l'espèce. C'est la voie de l'espèce. La voie de l'individu, c'est qu'on peut faire subir à un estomac des régimes très différents. Quand on passe du régime du monde dans lequel on est, on était avant, au régime de la communauté Saint-Jean, vous voyez, l'estomac individuel peut gémir. Écoutez-le, n'est-ce pas? Vous entendez les gémissements de l'estomac de l'individu, parce qu'on lui fait passer d'un régime à un autre régime. Et alors on dira, attention, il y aura la prudence du médecin qui dira, attention, ne forcez pas trop, parce que si vous forcez trop, alors vous arriverez à des dégâts. Et c'est vrai, on arrive à des dégâts. Parce que, de fait, on peut imposer spirituellement un régime qui va être contre les déterminations spécifiques. Il y a des déterminations spécifiques devant lesquelles on ne peut pas, contre lesquelles on ne peut pas aller. Les déterminations individuelles, on peut les modifier. Mais les déterminations spécifiques, on ne peut pas les modifier. C'est toute la question, vous savez, pour les interventions pour changer au point de vue génétique. Est-ce que je touche l'individu, est-ce que je touche l'espèce? Si je touche l'espèce, je ferai un monstre. Si je touche l'individu, je peux libérer, aider. Mais c'est très difficile parce que je ne peux pas le faire a priori, ça. Parce qu'au niveau de la vie, les deux sont impliqués. Le vivant de vie végétative vit individuellement sa vie végétative selon les déterminations de l'espèce. Et ceci alors se voit particulièrement fortement au niveau de la procréation. Au niveau de la procréation, les lois de l'espèce reprennent une rigueur extrêmement grande. Parce que c'est l'espèce qui procrée à travers l'individu. Parce qu'on a beaucoup de peine à comprendre ça aujourd'hui. Parce qu'au fond, on ne regarde plus que l'instinct sexuel. Alors l'instinct sexuel, c'est revenir à l'individu. C'est oublier complètement l'espèce. Alors que l'espèce est plus présente dans les lois de la procréation, dans les exions, que dans la nutrition. L'espèce est présente dans la nutrition. C'est bien évident, je ne peux pas couper l'espèce de l'individu et l'individu de l'espèce. Mais l'individu est très très présent. C'est l'individu qui va grandir, c'est pas l'espèce. Mais il va grandir selon tel rythme à cause de l'espèce. C'est l'individu qui se nourrit. Et c'est l'espèce qui procrée à travers l'individu. Très curieux, ça, au point de vue philosophique. Et c'est très important de comprendre ça. Parce que c'est là où on saisit, justement, qu'il y a quelque chose de très important à saisir, au point de vue de la prudence, voyez, au point de vue de la manière dont la vie végétative pourra être assumée. Dans quelle mesure la vie végétative comprend une certaine souplesse? Et dans quelle mesure la vie végétative est déterminée à l'humour? La vie végétative est déterminée, elle est déterminée au niveau de l'espèce. Et cependant, elle implique une certaine souplesse au niveau de l'individu. Et vous voyez que là, je fais une distinction, je fais une séparation. C'est bien évident. Quand vous allez boire tout à l'heure une tasse de café, vous allez dire, est-ce que c'est l'individu, est-ce que c'est l'espèce? Non. C'est vous. C'est vous. Et vous, c'est l'individu et c'est l'espèce. Et cependant, il y a une distinction qu'on peut faire philosophiquement. Et on l'a fait au niveau de la vie végétative. Et je vous dis que cette distinction est d'autant plus forte au niveau de la procréation. Parce que la procréation, c'est vraiment l'espèce qui reprend tous ses droits. Tandis qu'au niveau de la croissance et de la nutrition, c'est l'individu qui réclame. C'est pas l'espèce. C'est l'individu. Tandis qu'au niveau de la procréation, c'est l'espèce.